enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dans l'évangile selon Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, verset 13. Voilà ce qu'on peut lire ensemble. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui porte l'effigie de l'inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Et ils furent, à son égard, dans l'étonnement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, peut-être certains vont être surpris en disant, « Mais je connaissais cette expression-là. Rendre à César ce qui appartient à César. » C'est Jésus qui a dit ça. « Rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Tout a commencé parce que on cherche à piéger Jésus, à le prendre au piège par ses propres paroles. On essaye de lui tendre un piège en disant « Voyons voir ce qu'il va nous répondre. » Si Jésus nous dit qu'il faut donner l'impôt à César, mais voyons donc, César c'est romain, on est là en Israël sous l'occupation, ils sont là occupés par les Romains, et alors quoi ? Il faut payer à cet envahisseur, il faut être collaborateur avec ces envahisseurs qui sont là, c'est pas leur pays et on va devoir payer. Pour un roi païen, César se proclame lui-même Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne à Rome à cette époque-là. L'empereur, c'est le Dieu de l'Empire. Alors quoi, des bons juifs qui aiment l'Éternel doivent financer et payer celui qui se proclame Dieu lui-même sur tout l'Empire ? Est-ce que Jésus serait capable de dire ça ? En tout cas, s'il dit qu'il faut payer, on lui dira, c'est pas possible. Hein. Tu peux pas être avec Dieu et être avec César. Et puis, si Jésus répond, il ne faut pas donner l'argent à César, on ira voir Hérode et on dira, il y en a un qui met la rébellion, qui met le trouble. Il y en a un qui nous dit qu'il faut se révolter. Il vient mettre la zizanie et la panique au sein de notre pays parce qu'il incite les gens à s'élever contre César. En fait, il pose une question à Jésus, une question piège, parce que Jésus, qu'il réponde blanc ou qu'il réponde noir, de toute manière, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas entendre sa réponse, parce qu'ils ont déjà préparé ce qu'ils allaient faire. Si Jésus nous répond ça, on ira dans telle direction. S'il nous répond ça, on ira dans telle direction. Il est là comme pris au piège, du moins. C'est ce qu'il voulait, mais tel esprit qu'il croyait prendre. Voilà que ces hommes arrivent près de Jésus, envoyés par les pharisiens. Même Matthieu nous dit, ils ont envoyé les disciples. Ils ont envoyé les plus jeunes, ils n'ont pas voulu y aller en personne, ils ont envoyé les disciples en disant « Allez pour cette mission-là, demandez à Jésus et lui poser cette question. » Quand ils arrivent vers Jésus, c'est surprenant de voir l'entrée en matière. Comment ils vont introduire leur question ? Ils arrivent en disant, en appelant déjà Jésus « Maître, toi qui es maître, toi qui es un maître et nous voulons que tu nous enseignes. » C'est pour ça qu'ils appellent Jésus « Maître, toi le maître, nous avons besoin d'être enseignés. » Et ils disent, « Nous savons que tu es vrai. Tu es le véritable. Tu es vrai. » Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité. » Tu es vrai. Tu es la vérité. Et tu ne t'inquiètes de personne, toi qui n'as peur de personne. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, parce que tu sais qui est chacun. Tu sais ce qu'ils ont dans leur cœur. Nous savons que tu connais les hommes. tu ne regardes pas l'apparence et tu connais chacun. Et voyons, il y a des gens qui viennent vers Jésus. Ils savent, eux, pourquoi ils vont vers Jésus. Ils viennent vers Jésus lui poser une question piège. Ils viennent vers Jésus lui mentir. Ils viennent vers Jésus avec hypocrisie. Ils viennent vers Jésus en disant, on va jouer ceux qui sont disciples de Jésus, on va l'appeler maître. On va venir vers Jésus en disant, Jésus, on a besoin d'être enseigné de toi, mais le but de notre mise en scène, c'est juste de prendre Jésus au piège. Eh bien, le menteur qui vient vers Jésus dit, Jésus, toi qui sais qui est le menteur et qui ne l'est pas. Et c'est ça. Jésus, toi qui connais les gens, toi qui connais la vérité, toi qui sais. Mais attendez, ils viennent vers Jésus en disant, nous savons, vraiment, s'ils le savaient, est-ce qu'ils auraient pu venir vers Jésus comme ça? S'ils disent, Jésus, nous on sait que toi tu sais ce qu'il y a au cœur des hommes, que tu t'inquiètes de personne, tu es vrai, tu es le véritable. Et ils viennent vers Jésus lui dire ça, alors que dans leur cœur, il y a des projets, il y a de l'hypocrisie. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils disent le connaître, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Du moins, les paroles qu'ils disent sont bien, mais ils n'y croient pas vraiment. Voyez-vous, dans l'Église, il ne faudrait pas qu'il y ait des choses comme ça. Qu'il y ait des personnes qui viennent en disant, Seigneur, nous savons que tu es vrai, que tu es dans le ciel, et qu'on ne peut pas rien te cacher. On sait qu'on ne peut pas venir dans ta maison et te cacher quoi que ce soit. Que tu vois tout, même dans le secret, même quand personne nous voit, même ce que les gens les plus proches de nous ne connaissent pas, toi tu le sais. Et on viendrait dans la maison de Dieu en disant, Seigneur, nous savons que tu connais toutes choses. Et puis dans notre cœur, on espérerait quand même cacher quelque chose à Dieu. C'est pas cohérent, c'est pas logique. Comment venir dans la maison de Dieu en disant, toi qui connais toutes choses. Enfin, j'ai quand même tel et tel problème, j'espère que personne ne va le remarquer. Mais Dieu le voit, et Dieu le connaît, et Dieu le sait. Et Jésus connaît leur cœur, connaît leur hypocrisie, connaît leur mascarade, mais va répondre à leurs questions. Et Jésus connaît leur cœur, et bien va leur retourner l'appareil. Et comment est-ce qu'il va faire? Il va dire, apportez-moi un denier. Le denier, c'est la pièce de l'époque. Apportez-moi un denier, et puis il pose tout simplement la question, mais de qui est l'effigie que porte l'inscription? Il y a une silhouette sur ce denier. Il y a une silhouette là, il y a quelqu'un qui a été gravé, marqué sur cette pièce. C'est qui cette personne? César. Et Jésus va dire, bah, si c'est César sur ce denier, c'est que ça lui appartient, puisqu'il y a sa photo dessus là. Et bien, rendez à César ce qui est à César. Mais ça s'arrête pas là. Mais Jésus dit pas seulement « Rendez à César ce qui est à César ». C'est quoi l'effigie sous les billets au Canada là? Hein, il faut rendre à la reine d'Angleterre. Bon. « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Et c'est là le point important. Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ». Ce qui appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qui est à Dieu? Et qu'est-ce qui appartient à Dieu? Est-ce que vous avez des choses à rendre à Dieu qui lui appartiennent? Jésus dit, rendez à César ce qui appartient à César, mais rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Est-ce qu'il y a des choses qui appartiennent à Dieu que vous devez lui rendre? Si vous devez lui rendre, c'est que vous les avez prises. Dès le commencement, dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image. Il y avait sur le denier, sur cette pièce, l'image de César. Et Dieu a mis en nous son image. Dans chacun d'entre nous, chrétien ou pas, dans chacun d'entre nous, il y a l'effigie, l'image de Dieu. Et Dieu, et Jésus dit, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. De la même manière que ces pièces appartiennent à César parce qu'elles en ont l'empreinte, l'effigie, de la même manière, vous, qui qui avait l'empreinte de Dieu en vous, qui avait été fait à son image, qui avait en vous le témoignage, vous êtes la créature de Dieu, rendez à Dieu ce qui lui appartient. Dieu a fait l'homme à son image. Il est le créateur. C'est lui le créateur. C'est lui qui a déposé le brevet. Nous sommes sa créature. Nous lui appartenons. Et Jésus nous présente un voleur. Dans Jean 10:10, il nous dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est le diable. Le diable est un voleur. Par définition, le voleur, il prend ce qui lui appartient pas. Et c'est ce que fait le diable. Il prend les vies qui lui appartiennent pas, qui ont l'empreinte, la marque de Dieu. Et voilà pourquoi dans le monde aujourd'hui, il y a tant de gens qui sont loin de Dieu, parce que le voleur les a détournés de leur but. Le voleur les a dérobés de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Le diable est venu comme voler l'humanité. En parlant à Adam et Ève, le diable est venu comme voler la créature, la création de Dieu. Dieu avait fait l'homme et la femme à son image. Et le diable est venu comme voler ce que Dieu avait fait, en venant amener le péché dans le monde. Et de la même manière, aujourd'hui encore, il y a bien des âmes, des hommes, des vies qui sont volées. Parce que tous les hommes appartiennent à Dieu, ont été faits à l'image de Dieu. C'est Dieu le Créateur. Et aujourd'hui, tous vos voisins, vos collègues, tous ceux que vous connaissez, ont en eux, toujours, l'image de marque, la marque de fabrication. Ils ont l'image de Dieu en eux. Mais le diable a volé ce qui revient à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Rendez donc à Dieu ce qui appartient à Dieu et votre vie. Votre vie, par définition, appartient à Dieu. Vous avez été créé pour Dieu, pour lui. C'est pour ça que vous avez la vie aujourd'hui. Mais si votre vie aujourd'hui n'appartient pas à Dieu, c'est parce qu'elle a été volée, parce que le diable l'a volée. Mais Jésus est venu pour racheter. Il y a un petit R devant le verbe acheter. Quand on achète quelque chose, et quand on rachète quelque chose, vous achetez une voiture, vous la revendez. Vous dites, ah, j'aurais pas dû la vendre, elle était tellement bien. Je vais retourner voir celui à qui je l'ai vendue et je vais la racheter. Je vais la payer deux fois. Vous l'achetez une fois, elle est plus à vous et vous la rachetez. Mais là, c'est ce qui s'est passé avec Dieu. Dieu a acheté les hommes dans le sens où il a fait l'homme pour lui. Le diable a volé les hommes. Et Dieu, en Jésus, va racheter nos vies, nos âmes. Jésus est notre Rédempteur, celui qui rachète. Quand il est mort sur cette croix du calvaire, quand il est mort sur la croix, il a payé le prix de notre rachat. Il a payé afin que nous ne soyons plus entre les mains du voleur, mais que nous rappartenions de nouveau à Dieu. Le péché nous emmène dans la perdition, nous emmène à être perdus, mais Jésus a payé afin que l'on soit plus perdu. Rendez donc à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et laissez-moi vous dire, pour ceux qui n'ont pas rendu encore à Dieu ce qui appartient à Dieu, votre vie appartient à Dieu. Et Jésus a racheté afin que vous soyez de nouveau entre les mains de Dieu, sa possession. Mais pour ça, il faut l'accepter simplement, il n'y a rien à faire, si ce n'est qu'à croire, si ce n'est qu'à accepter ce que Jésus a déjà accompli sur la croix du calvaire, et de dire, oui Seigneur, ce que tu as payé, que ce soit aussi pour ma vie, afin que ma vie ne soit pas encore et toujours dans les mains d'un voleur, mais que je rende à Dieu ma vie, mon âme, que je rende à Dieu ce qui lui appartient. Nous portons tous en nous l'image de Dieu. Nous sommes faits à son image. Un jour, Dieu va nous redemander des comptes. Souvenez-vous de cette parabole où Jésus va dire concernant cet homme qui dit « Je suis riche, j'ai besoin de rien, j'ai eu de grandes moissons, j'ai fait fortune cette année, et j'ai tellement, ma récolte a été tellement grande que je dois bâtir encore des greniers pour garder toutes les semences que j'ai récoltées. » Et puis Dieu va parler à cet homme et va lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Un jour, Dieu va nous demander des comptes et notre âme, notre vie, nous sera redemandée. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu avant qu'il ne vous le redemande. Comprenez bien que quand il y a un différend, si vous allez régler, si vous avez volé quelque chose, vous direz, ça peut pas arriver. Ben, supposons. Vous avez volé quelque chose à votre voisin. Alors, soit vous attendez que la police vienne vous chercher, il faudra rendre compte devant la justice. Mais si vous allez voir votre voisin et que vous lui rendez ce que vous lui avez volé, et que vous vous arrangez à l'amiable, vous n'avez plus besoin de passer au tribunal. Parce que c'est réglé. Et c'est pareil avec les affaires de Dieu. Soit vous réglez les affaires de Dieu à l'amiable, et Jésus est médiateur pour ça justement, pour qu'on ne passe pas en justice, et pour pas qu'on soit condamné à cause de la justice, parce qu'on est coupable. Mais Jésus a payé pour nous, afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est ça une bonne nouvelle. En Jésus, nous pouvons régler nos comptes avec Dieu. Et nous pouvons faire la paix avec Dieu. Il est notre paix. Et qu'on puisse régler nos affaires avec Dieu, rendre à Dieu ce qui lui appartient, rendre nos vies à Dieu avant que notre âme nous soit redemandée et que la justice de Dieu vienne nous redemander des comptes. Réglons nos affaires avant, comme ça il n'y a plus de condamnation et nous sommes libres, affranchis, sauvés. C'est une bonne nouvelle, ça. Amen. Et quand on le réalise, quelle grâce, Seigneur, tu nous as fait. Nous sommes libres. Il n'y a plus de condamnation. La cour de Dieu, le jugement dernier, le tribunal de Dieu, c'est pas pour moi. Parce que Jésus a déjà payé, parce que j'ai fait un arrangement à l'amiable avec le Seigneur. C'est lui l'ami. J'ai fait un arrangement avec lui et il m'a garanti que j'avais en lui la paix, que c'était effacé. Que le différend, le contentieux que j'avais avec Dieu, il l'a effacé par son propre sang à la croix du calvaire. Mais si on ne va pas vers lui pour être réconcilié avec Dieu, on est toujours coupable et la justice de Dieu nous poursuivra. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous aurons un jour à rendre compte à Dieu. Nous avons à rendre à Dieu ce qui lui appartient. Maintenant, l'image que Dieu a mise en nous, est-ce qu'elle est visible? Vous savez, quand on vole un véhicule, je ne suis pas expert, hein, mais j'ai cru comprendre que sur les voitures, il y a des numéros de série qui sont gravés quelque part, là, sur le châssis ou je ne sais pas où. Les voleurs qui veulent passer un véhicule, j'allais dire dans les pays de l'Est, mais les pays de l'Est ici, ce n'est pas la même chose qu'en France. Généralement, les voitures volées, on va les retrouver en Pologne, en Bulgarie, je ne sais pas où. Je ne sais pas où ils les envoient ici, les voitures volées, où ils les laissent au Québec. Bon, ça reste au Québec. Ils ne les envoient pas au Mexique ou je ne sais pas où, non, bon. Eh bien, on essaye de, enfin c'est ce qu'ils font, d'effacer, mais bon, comme c'est du métal, là, de graver par-dessus pour rendre illisible le numéro de série, pour plus que ça se voit. Mais l'image que Dieu a mise en nous, essayez pas de l'effacer. Essayez pas de le graver par-dessus comme le voleur essaierait de faire pour dire, mais non, il n'y a plus d'image de Dieu en toi. L'image de Dieu, elle est là. Et on ne veut pas qu'elle soit cachée, on ne veut pas la maquiller, la cacher, mais il faut qu'elle se voit. Et il ne faut pas que ce numéro de série, quelque part, soit caché en dessous de la voiture, là, mais que ce soit bien visible. Et que l'image que Dieu a mise en nous, elle se voit. Et qu'autour de nous, on puisse voir l'image du Dieu vivant en nous. Antioche, nous dit Luc dans le livre des Actes, c'est dans cette ville d'Antioche qu'on a appelé pour la première fois ceux qui croyaient des chrétiens. Ça veut dire quoi des chrétiens? Au départ, il y avait une notion péjorative, c'est vrai. Des chrétiens. Chrétiens, on retrouve le mot Christ. Des chrétiens,
c'est des petits Christs. Pourquoi on les a appelés comme ça? Parce qu'ils ressemblaient tellement à Jésus. Qu'aujourd'hui, on puisse nous appeler chrétiens, non pas parce qu'on va dans une église chrétienne, mais parce qu'on ressemble tellement à Jésus. Est-ce que quand on vous regarde, est-ce qu'on vous a déjà dit « Ah, c'est fou comme tu ressembles à Jésus !» On vous a jamais dit ça? Eh bien, on devrait vous le dire. Si on vous le dit pas, il y a une anomalie là. Il faut que Jésus se voie en vous. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau, sous le vase. Mais on la met au milieu de la pièce, afin que si quelqu'un rentre, il la voit. La vie que Dieu a mis en nous. Doublement. Pourquoi je dis doublement? Parce qu'on a eu la vie le jour de notre naissance, qui avait déjà la marque et le sceau de Dieu. Nous avons été faits à son image. Mais quand nous avons accepté Jésus en nous, il nous a donné la vie une deuxième fois. Naître de nouveau. Nous naissons une deuxième fois. Nous sommes deux fois vivants. Ça doit se voir quand on est deux fois vivant. Et la vie que Dieu nous a mise en nous, elle doit se voir. Elle doit se manifester. Elle porte l'image de Dieu. L'image de Dieu en nous. On disait avec les jeunes vendredi soir, 1 Timothée 4:12 pour ceux qui notent, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est bien, hein? Soit un modèle. Avec les jeunes, je ne suis pas rentré dans le grec, mais avec vous, j'ose pas. Enfin, si, je vais oser, je vais oser. Avec les jeunes, je n'ai pas osé, mais avec vous, je vais oser. Soit un modèle. Ce mot modèle, c'est le mot typos, qui a donné en français typographie. Oula. C'est quoi la typographie? Il faut prendre le dictionnaire, là. L'imprimerie. L'imprimerie. Comment ça marche, l'imprimerie? Pas l'imprimerie moderne, quoique avec l'offset, mais l'imprimerie du temps de Gutenberg. Ça remonte, hein? L'imprimerie, c'est quoi le principe de base de l'imprimerie? C'est qu'on a des caractères en plomb, en fer, en métal. On met tous ces caractères les uns à côté des autres. On met de l'encre sur ces caractères. On met une feuille sur ces caractères. On presse. Et puis, le caractère va imprimer, va mettre sa marque sur la feuille. Et quand il dit « sois un modèle », c'est ça. C'est de ça dont il est question. Jésus est le caractère qui va venir mettre sa marque en nous. Il est le sceau qui va venir mettre sa marque en nous. Sois un modèle, qu'il y ait en toi l'image du Dieu vivant, la marque de Jésus. Qu'il y ait en toi le type, l'empreinte de la personne de Christ. Il est là, ce sceau qui va mettre en nous une empreinte. Vous savez, comme au temps des mousquetaires et des rois de France, et, hein, quand on signait une lettre, il fallait mettre un sceau. Généralement, ça pouvait être une bague. Il y avait donc un caractère de dessiner dessus. On prenait de la cire, on appuyait avec sa bague sur la cire, et ça venait marquer la cire du sceau qui était sur cette bague. Et ça, c'était la signature. De la même manière, Christ et le sceau, et il vient mettre son empreinte en nous. Et quand il dit « sois un modèle », ça veut dire que la personne de Jésus t'est tellement marquée, tu sois tellement imprégné de la personne de ton Sauveur, que cette marque devient visible. Que cette marque soit visible. Que la marque du Dieu vivant en nous soit visible, que la marque de notre Sauveur soit visible en nous. Et s'il faut appuyer plus fort pour que ça marque plus, eh bien laissez-vous presser un peu, et laissez le Seigneur vous presser un peu plus contre lui, près de lui, avoir cette intimité avec lui, Et plus on est près du Seigneur, plus on est près de lui, plus on est à son contact, plus sa personne va venir nous imprégner, nous transformer et nous marquer à son image. Et nous devenons conformes à son image. Tel que lui, nous devenons des petits Christ. Nous devenons comme Christ. À tel point que l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et même il dira, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je ressemble tellement au Seigneur que si vous me regardez, vous verrez le Seigneur. C'est comme ça que vous rendez témoignage. Tu veux savoir qui est Jésus, mon ami? Regarde-moi. C'est comme ça qu'on devrait rendre témoignage. Ça vous fait rire, mais on devrait pleurer ce matin. Hein? Notre vie doit ressembler à celle du Seigneur. Quand quelqu'un vient nous voir, on dit, mais tu as quelque chose que j'ai pas. Il y a là, en toi, quelque chose, ben, que ce quelque chose soit un peu plus visible et qu'on n'est pas là. J'ai l'impression qu'il y a une silhouette là, un peu comme ce roi qui voit dans la fournaise ardente, il dit, mais on n'avait pas mis trois hommes, Shédrach, Meshach et Abednego, mais j'en vois un quatrième qui est là avec, il voit que la silhouette éclatant. Il y a un quatrième là, il y a une silhouette. Ben, que dans notre vie, ce soit pas juste quelque chose de vague, ce soit pas juste qu'une silhouette, mais que ce soit une empreinte, mais une empreinte qui soit claire, qui soit visible, l'image de Dieu en nous, l'image de Jésus dans nos vies. Et que cette image, vous savez, si on fait un tampon, une estampe. Pourtant, je me suis fait avoir la dernière fois, dimanche dernier, puis je me fais avoir encore ce matin. Si on étampe un peu vite, ben, on voit pas ce qu'il y a marqué. Des fois, il faut bien appuyer, et bien que dans notre vie, ce soit pas juste comme ça, un saut qui soit un peu flou, on dit oui, bon, il y a une image là dans sa vie, mais on voit pas trop ce que c'est. Il y a quelque chose en lui, mais on voit pas trop ce que c'est. Peut-être qu'il est végétarien, ou peut-être que c'est le New Age, peut-être que c'est ceci. Non! Qu'il n'y ait pas d'amalgame, que ce soit clair. Ce que j'ai en moi, c'est pas seulement une bonne moralité. Ce que j'ai en moi, c'est pas seulement une bonne façon de vivre, une hygiène de vie, mais c'est Jésus-Christ. Et que cette image, elle soit claire, elle soit visible. Elle soit visible. L'apôtre Paul dira, et on en a parlé mercredi soir, alors je reviens dessus, ceux qui étaient là mercredi, ça fait une révision comme ça, 2 Corinthiens 3:18, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Dieu veut en nous travailler nos cœurs, transformer nos vies pour que notre vie devienne l'image telle que l'image de Dieu, telle que l'image de Jésus. Et cette transformation, c'est un processus de la vie chrétienne et on est appelé à grandir. Elle doit grandir. Oui? Quand un enfant de 1 an dessine son papa, je sais pas si vous avez vu des dessins comme ça, moi j'ai vu des dessins de mes filles. Ah, c'est joli, c'est quoi? C'est un cheval? Non, c'est papa. D'accord. Hein, vous avez pas vu des dessins comme ça? Bon, on espère qu'en grandissant, l'image va être un peu plus nette et qu'on va reconnaître un peu plus le personnage et qu'on devienne après talentueux en disant, mais c'est le dessin, là, on dirait une photo. Eh bien, que l'image de Dieu dans notre vie ne soit pas une image floue comme ça où on a du mal à deviner ce que c'est, mais qu'elle ressemble de plus en plus au modèle de Dieu, à Jésus-Christ. Dans Romains 8, 29, l'apôtre Paul dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La volonté de Dieu, et même la destinée pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils.
que nous soyons comme l'image de son Fils. Que ce que reflétait Jésus, nous le reflétions. Romains 8, 29, il nous a prédestinés à être semblables. Je ne me suis pas trompé, hein, je le répète exprès. Hein. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est le destin que Dieu veut pour votre vie, que vous soyez semblables à l'image de son Fils. Seigneur, aide-nous à grandir, à faire des progrès, et que l'image que les autres voient en nous soit ton image, que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Rendez à César ce qui appartient à César, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il y avait sur ce denier l'image de César, il y a dans nos vies l'image de Dieu. Et nous devons rendre nos vies à Dieu parce qu'elles lui appartiennent. Et quand nous avons accepté Jésus en nous, il y a comme une autre image, une image supplémentaire, celle de son Fils. Il y a deux faces hein, sur une pièce. D'un côté, il y a l'image de Dieu, du Dieu éternel, l'image du Père, et il y a l'image du Fils. Et la volonté de Dieu, c'est que cette image soit claire, soit nette, qu'elle soit visible. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut que son image soit visible? Pourquoi faut-il que l'image qui est en nous soit claire? Nous, on sait bien ce que c'est. Un enfant, quand il a fait son dessin, il sait ce que c'est. Moi, pour moi, c'est clair. Je sais que Dieu est en moi. Pour moi, les choses sont claires. Pour vous, oui. Mais les autres? Non, mais les autres, ça compte pas. Les autres, ça compte. Si les autres ne comptaient pas, le Seigneur vous aurait monté au ciel tout de suite. Et vous a laissé ici. Parce que vous avez une mission. Le Seigneur attend que vous soyez la lumière du monde. Jésus a dit, je suis, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Bon, ben ça va, c'est Jésus la lumière du monde. D'accord. Mais Jésus nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Ben, il faut savoir. Jésus dit, je suis, c'est moi, la lumière du monde. Mais plus tard, il dira, vous êtes la lumière du monde. Mais alors, qui est la lumière du monde? La Bible se contredit-elle? Est-ce que vous comprenez ce passage? Pourquoi Jésus dit, je suis, c'est moi, le je suis, la lumière du monde? Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et puis il dira aussi à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et c'est encore le même terme, lumière du monde, c'est moi. La lumière du monde, c'est vous. Alors, comment on va résoudre cette énigme? Jésus dit, celui qui me suit, il a la lumière de la vie. Si cette lumière, elle est en nous, nous devenons des lumières. Oui? Et quand Jésus dit, vous êtes la lumière, c'est pas vous en tant que tel, mais c'est parce que cette lumière a été mise en vous, parce que cette image est visible, parce que cette empreinte est dans vos vies, parce qu'il y a là en vous le témoignage de la lumière. Et cette lumière, elle doit être vue. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est là une mission, un mandat que le Seigneur nous a confié de briller dans les ténèbres. Parce que nous sommes dans des ténèbres. Et ne fais pas croire qu'à Drummondville, il n'y a pas de ténèbres. Quand on lit le journal et quand on voit les choses qui se passent, on dit, Seigneur, mais si nous, on n'est pas la lumière du monde, où est l'espoir du monde? Qu'est-ce que ce monde va croire? Qu'est-ce que ce monde va espérer? Si on ne donne pas de l'espoir à ceux qui ont des pensées suicidaires, si on ne donne pas de l'espoir à ceux qui sont malheureux, si on n'amène pas de la lumière à ceux qui sont là dans les ténèbres, mais qui va le faire? Comptez pas sur le diable pour le faire, hein? Nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière, on n'a pas le droit de la cacher. L'image que Dieu a mise en nous, on n'a pas le droit de la garder pour nous. Le talent que Dieu nous a donné, ne vous risquez pas à l'enfouir en terre en disant, quand le Seigneur me redemandera des comptes, je lui redonnerai ce qu'il m'a donné. Ce qu'il nous a donné, il attend à ce qu'on le fasse fructifier.
et qu'avec 3 talents, on en donne face 3 autres de plus, qu'avec 5, il y en ait 5 autres de plus, et que la lumière qui est en nous, eh bien, elle brille. Est-ce que c'est difficile, quand on a de la lumière, imaginez un flambeau, de donner de la lumière à quelqu'un? Vous avez un flambeau. J'aurais presque pu en prendre un, là, ce matin, mais j'aurais peut-être mis le feu, je sais pas. Si on a un flambeau, vous imaginez un flambeau, là. Puis quelqu'un, il a une torche, mais la torche, il a sur son bâton, mais il n'y a pas de feu. Ah ben attends, je vais te donner de la lumière. Ah non, je ne vais pas lui donner ma lumière, j'en aurai plus après. Non? Comment ça se passe si je veux lui donner de la lumière? Est-ce que je risque d'en perdre? Ben pourtant, je lui en donne. Je lui en donne, mais j'en perds pas. Et dans la même pièce, on y verra mieux, parce qu'il n'y aura plus qu'une lumière, mais il y en aura deux. Et quand on est chrétien, quand vous donnerez aux autres, vous allez rien perdre. Mais au contraire, au lieu d'avoir une lumière dans la pièce, il y en aura deux. Et on y verra mieux. On perd rien. C'est pas, je te donne ma lumière et j'en ai plus pour moi. Mais j'allume avec la lumière qu'il y a en moi, avec la flamme qu'il y a en moi. La lumière reste en moi. Mais elle s'est communiquée, elle s'est propagée à ceux qui sont autour de nous. Puissions être des lumières dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde, que cette lumière brille, que cette image qui est en nous, eh bien, soit vue, soit portée. Je vais inviter les musiciens à venir et on va conclure avec ça en disant tout simplement, Seigneur, que ce que tu m'as donné, que la vie que tu as mise en moi, elle soit pas cachée, elle soit pas enfouie. Si quelqu'un ce matin réalise qu'il n'a pas rendu à Dieu ce qui lui appartient, eh bien, sache que en Jésus, il est possible de dire, Seigneur, je veux pas que ma vie, elle soit gâchée, elle soit perdue, mais je veux qu'elle te revienne, parce que c'est toi le maître, c'est toi le créateur. Et que chacun puisse repartir de ce lieu en disant, la lumière de Dieu est en moi, le Dieu de victoire habite en moi, et bien que cette vie soit manifestée, soit vue, soit communiquée, que l'image du Dieu vivant soit vue en moi, qu'à mon travail, que dans ma famille, que dans mon voisinage, que les gens qui me connaissent, en me voyant, puissent pas simplement dire que tu as quelque chose de spécial, mais que ce spécial, ils puissent l'identifier, que ça devienne clair, que ça devienne visible, c'est vrai, tu es chrétien, et ça se voit. Christ habite en toi, et ça se voit. On va réfléchir sur ces choses, et on va demander au Seigneur de nous aider à aller plus loin, et à vivre ces choses. Alléluia. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.